Monter une entreprise ne consiste pas qu'à rassembler des capitaux, c'est aussi avoir des moyens humains qui, chacun de leur côté, connaissent avec doigté leur spécialité, mais qui ensemble se mêlent harmonieusement. C'est exactement ce qu'a fait notre invité à 25 ans, en fondant un orchestre philharmonique dont les musiciens venaient de toute l'Europe, avec des commandes prestigieuses, comme des prestations pour Johnny Hallyday ou même pour la chanson électorale de François Mitterrand en 88. Cette expérience entrepreneuriale dans le milieu de la culture lui permit de se faire remarquer, ce qui lui valut d'être chargé de mission pour le ministre de la Culture Philippe d'Oust-Blazy en 95, puis conseiller sur le monde de l'information et des médias auprès du Premier ministre en 2002. En 2007, il rejoint l'UMP et participe à la campagne Internet de Nicolas Sarkozy, avec le succès que l'on sait bien évidemment. Mais là où il se fit connaître des internautes, c'est en tant que secrétaire général de la Hadopi de 2010 au 1er août dernier, où il se montra plutôt ouvert au dialogue des internautes dans une institution surtout connue de la plupart de ceux-ci pour ses actions de répression envers de la petite délinquance un peu trop quotidienne vis-à-vis d'un certain secteur d'activité. Mais là où, en fait, il a été intéressant sur ce poste-là, c'est parce qu'il a amené un dialogue très intéressant et qui nous semble être finalement un netizen aussi bien qu'un haut fonctionnaire, que nous avons souhaité interviewer dans cette release Eric Walter, fondateur d'un orchestre privé, metteur en scène du service Signal Spam, officier de l'Ordre National du Mérite et surtout photographe wikimédien assez actif. Si tu coupes mon jingle... Eh ben Eugène, bravo. Eric Walter, bonjour.
Bonjour.
Par téléphone depuis Paris, et merci en tout cas de nous avoir rejoint pour l'enregistrement. On ne va pas parler de la Hadopi ce soir, je ne souhaite pas revenir sur les avertissements qu'a reçu Solarus pour des raisons de pudeur. Ouais. Ouais.
Mais j'ai Netflix maintenant.
T'as Netflix, ouais. C'était quoi déjà, le Camping 2?
Non, c'était Astérix et Obélix au service de Sa Majesté.
Ah, oh, bon, d'accord. Eric, donc, quand tu as accepté ce poste, après tous les rebonds rocambolesques sur l'adoption de cette loi, est-ce que tu as imposé en soi une condition?
Il y a eu une question, là.
Oui. quelle était, vis-à-vis justement en fait de la situation rocambolesque, hein, je vais dire, et surtout du débat qui a été amené autour de la loi Hadopi, quand on t'a proposé le poste de secrétaire général de la commission, est-ce que tu as imposé une condition? Est-ce que tu as dit OK, mais...
Non, je dis OK.
Tu as dit OK.
J'ai mis du temps à dire OK. J'ai pas dit OK tout de suite, mais c'était pas OK, mais...
D'accord.
C'était OK de tout court.
Le rôle d'un conseiller est d'éclairer un élu politique sur certains aspects de technique, en général. Mais en fait, l'une des questions qui en soit me taraude, et je suis loin d'être le seul, c'est pourquoi finalement les hommes politiques, et les femmes politiques d'ailleurs, s'obstinent à toujours vouloir avoir réponse à tout, quitte à se discréditer, au lieu d'avoir la sagesse de dire « je ne sais pas ».
Alors ça, c'est une question marrante. C'est une question marrante parce qu'il y a plein de réponses possibles. Alors, il y a la réponse un petit peu cynique, c'est que s'il disait « je ne sais pas », il serait bâché sans doute 10 fois plus qu'en disant quelque chose qui peut être un peu approximatif.
Ah, c'est pas faux, ouais.
Et la question moins cynique, qui est que femmes et hommes politiques sont des gens comme toi et moi, comme nous, et ils ont une idée sur beaucoup de choses. On a tous des idées sur tout. Mmh. Il se trouve que eux sont porteurs d'une fonction visible et importante dans la démocratie, et que à partir de ce moment-là, on leur demande leur avis, et leur avis est porté, pardon pour la redondance, mais leur avis a une audience qui est évidemment beaucoup plus importante que celle que toi et moi on a sur Twitter, ou si on veut revenir un peu en arrière, que celle qu'on a quand on discute en prenant un pot. Donc je pense qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas leur reprocher de ne pas dire « je ne sais pas ». Et ça nous arrive pas souvent, même à nous, chacun dans nos discussions, de dire « je ne sais pas ». On essaye toujours d'avoir une idée un petit peu sur la question. Et alors après, qu'on ait une connaissance hyper poussée de tel ou tel domaine technique, ça nous arrive, et ça leur arrive aussi. nombreux sont des femmes et hommes politiques qui ont des domaines de compétences et sur lesquels ils sont excellents. Et lorsque ça ressort de leur domaine de compétences, ils sont comme tout le monde. Mais ce serait quand même le comble qu'ils n'aient pas le droit d'avoir un avis sur quelque chose qui n'est pas juste leur propre métier. Et enfin j'ajoute que c'est quelque chose qui m'avait frappé lorsque j'avais été... C'est ma première fonction dans la fonction publique, donc lorsque je suis rentré au cabinet de Philippe de Stoblasi, c'est extraordinaire le nombre de questions dont ils sont assaillis. Il faut qu'ils sachent tout sur tout.
Parce qu'ils sont justement dans la position en fait de prendre une décision, et donc ils doivent absolument y répondre au plus vite possible.
Oui, et puis même au-delà, parce qu'ils sont porteurs d'une part de la parole politique, et la parole politique, c'est une espèce d'ensemble, donc ils sont porteurs de quelque chose dans la société.
Alors, loin de moi l'idée de dire tous pourris, mais on a l'impression...
C'est intérêt, oui.
Oui, ce serait dommage quand même. Mais on a l'impression que certains grands intérêts sont plus écoutés que finalement le commun des mortels. Du moins, ça, c'est l'impression que la plupart des citoyens n'arrêtent pas de reprocher sur certaines lois.
Ouais, c'est une impression que je ne partage pas. Je trouve que finalement, c'est pas tellement loin de la théorie du complot, ce genre de raisonnement. Pour avoir vu de près le fonctionnement de la machine politique ou administrative, hein, puisque en fait, il y a d'une part la strate politique et la strate administrative, la deuxième étant chargée de mettre en œuvre ce qu'a décidé la première. Pour l'avoir vu de près fonctionner, pour avoir les mains dans le cambouis de ça, il n'y a pas de déséquilibre aussi frappant et presque aussi manichéen que celui que t'énonce à l'instant, et quand il dit les gens ont l'impression d'eux, etc. C'est normal de prendre en compte ce que tu appelles les grands intérêts. Les grands intérêts, c'est la vie de toute une quantité de personnes, c'est le fonctionnement du pays. C'est normal aussi, bien entendu, puisqu'on parle du fonctionnement du pays, et d'avoir à cœur d'apporter les meilleures conditions possibles à chacune des personnes qui constituent ce pays. Mais moi, en 15 ans à peu près de fonction publique, j'ai jamais été frappé par ça. J'ai été frappé au contraire par l'investissement de toute une quantité incroyable de fonctionnaires. Et Dieu sait qu'ils sont décriés, les fonctionnaires.
En ce moment, c'est un petit peu la mode d'ailleurs de gauche comme à droite. C'est impressionnant.
Enfin, moi, j'ai 53 d'années et quand j'en avais 20, c'était pareil. Hein. Donc, je rassure, c'est un serpent de mer. Je me souviens à l'époque où, pardon pour l'anecdote, mais elle m'avait toujours fait rire. À l'époque où ils ont passé les 35 heures, la grosse blague qui circulait, c'était oh là là, pour le ministère de la Culture, ça va être dur les 35 heures. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'ils y arrivent. Donc c'est vraiment le grand classique. Alors que, si j'en juge par ma propre expérience, donc c'est pas généralisable, mais une fois de plus, en 15 ans, j'en ai croisé beaucoup, était à des tonnes et des tonnes et des tonnes de gens qui se surinvestissent avec justement leur propre connaissance de leur propre cercle, et ils essayent de comprendre ce qu'on pourrait appeler les petits intérêts par opposition à ce que toi t'as appelé les grands intérêts. Donc il n'y a pas de petit veut pas dire péjoratif, petit on pense à l'individu, à monsieur et madame tout le monde, etc. Ils ont ça complètement en tête, pour la plupart de ceux que j'ai connus.
Tout à fait.
Sans même parler des profs, par exemple.
Ouais, ouais.
C'est pas mal.
On se souvient encore du dépit de Ségolène Royal sur la réception de son site web de campagne en 2007. Toi qui étais dans le camp adverse, je vais te demander, et tu étais à un poste à peu près équivalent, tu en avais un pincement au cœur quand même?
Oui, mais ça, j'avais un poste au cœur du fonctionnement Internet. J'en ai ri ou c'était quoi l'autre option?
C'est tu en as ri ou t'en avais un petit pincement au cœur pour eux quand même?
J'en avais un petit pincement au cœur tout court, parce que il y avait quelque chose dans la campagne Internet de Ségolène Royal, qui a eu aussi chez Nicolas Sarkozy, et c'était pas de mon fait, donc je le dis d'autant plus aisément. Hein. On se rappellera de Sarko TV, qui avait vraiment très 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 bien fonctionné en termes de communication politique sur Internet, qui avait été archi remarqué. Ça c'était double initiative d'Arnaud Dacier et de François de Labrosse, donc c'est pour ça que je dis que c'était pas de mon fait. Donc le passement au cœur, c'est le passement au cœur pour les gens qui ont de l'audace, qui essayent des choses, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Là, ça a pas marché.
Ouais.
Mais en revanche, le point qui te donne de l'empathie justement pour ces personnes-là, c'est qu'elles ont osé. Elles ont essayé. Et ça, c'était bien. Ça, c'était vachement bien.
Vis-à-vis de certains de ces hommes et de ces femmes politiques, est-ce que il y a un péché d'orgueil? Est-ce que c'est le fait que les conseillers sont plus muets en tant que courtisans qui ont créé une espèce de certitude absolue auprès de ces personnes-là et qui les mènent à l'échec?
D'orgueil, non. Après. C'est très clair que plus tout le monde... Je n'ai pas fait de politique moi-même. Hein. Je me suis arrêté à la strate du dessous, celle que j'appelle la strate administrative. Mais tu vois très bien, et ça vaut dans l'entreprise privée, ça vaut partout. Plus tu montes en responsabilité, plus tu changes de rythme, plus tu changes de dimension, et plus tu changes de mode de fonctionnement. Là-dedans, l'orgueil, il n'y a pas beaucoup de place. En revanche, ce qui a de la place, et une fois de plus, c'est pas limité à la sphère politique, c'est la consanguinité. C'est la richesse, de patron, parce qu'à la limite, dans le monde politique, tu parles d'un patron aussi, c'est assez amusant d'ailleurs. C'est de savoir, c'est d'avoir le goût de s'entourer de personnes qui sont issues de mondes différents, c'est-à-dire de faire lui-même la mosaïque de la perception qu'il veut avoir du fonctionnement de la société. Parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais j'ai toujours considéré que la consanguinité, c'est-à-dire être entouré de personnes qui viennent du même moule, n'était certainement pas une bonne façon de pouvoir exercer des responsabilités, quel que soit le niveau de responsabilité, pas quand tu es dans des hauts niveaux de responsabilité.
Ça s'appelle un début de charge contre l'ENA et Polytechnique, ça.
Pas forcément, parce que je rappelle, ça vaut aussi dans le privé, ça peut valoir pour HEC, ça peut valoir pour l'ESSEC, ça peut valoir pour le curateur dont je suis moi-même ici, ça peut valoir pour le collège Stanislas, etc. Après, c'est une fois de plus une question de strate de réseau, mais non, c'est pas que pour l'ENA. Et des hommes et des femmes politiques qui ont su chercher ailleurs, s'entourer d'autres, et j'en suis là, j'en suis d'ailleurs moi-même l'exemple achevé et l'exemple absolu. Pourquoi est-ce que je me suis retrouvé dans la fonction publique? Parce que j'ai eu la chance d'avoir des gens qui cherchaient un autre regard et une autre façon de travailler. Donc il y en a énormément. Il y en a énormément. Donc, je me méfie toujours de l'image d'Épinal que nous donne une espèce d'univers très standardisé de distribution de l'information. J'aime bien regarder derrière. Donc, quand j'entends, je sais que ça m'est arrivé de discuter avec des gens, y compris sur Twitter, mais quand j'entends des jugements tranchés, etc., j'ai toujours envie de convaincre mon interlocuteur d'aller regarder derrière le jugement tranché. Et derrière le jugement tranché, il y a souvent des femmes et des hommes qui sont un petit peu différents, voire énormément différents de l'image qu'on a pu en avoir en 30 secondes, en regardant sur YouTube ou en regardant la télévision.
Quel est, d'après vous, actuellement, ce qui pose le plus en fait un problème d'image vis-à-vis des politiques? Est-ce que c'est le côté très spectacle, le tournant très spectaculaire qu'a pris les politiques, puisque maintenant ils sont surtout invités dans des émissions de divertissement? Ou est-ce que c'est le fait qu'ils font beaucoup de promesses, certaines absolument intenables, voire même ça dépasse des fois le niveau d'un commercial en 2S2I?
Alors moi, j'aime bien l'expression, ou un commercial, ou un vendeur de machines à laver, ça marche aussi.
Le vendeur de machines à laver, il ne laissait pas de vendre du Java.
Non, mais bon, bref. On a connu aussi ceux qui voulaient vendre des radiateurs dans le désert. Ce sont des anecdotes d'une époque passée. Mon avis de citoyen, c'est que c'est la politique spectacle, clairement. J'ai lu récemment, c'est il y a plusieurs mois, 8, 9, je sais plus, un article très intéressant justement sur les promesses de campagne, parce que toujours en tant que citoyen, c'est quelque chose quand même l'interpeller, cette permanence. Parce que 30 ans de vie d'adulte, t'as le temps de voir que les choses ne sont pas nouvelles. C'est de promesses non tenues, c'est pas spécifique à la France, bref, on parle du monde et du fonctionnement du monde. Et l'article est vraiment extrêmement intéressant parce qu'il disait en fait que on savait tous implicitement que lorsqu'un homme politique ou une femme politique faisait des promesses pour se faire élire, c'était pas tellement pour qu'il les réalise, on savait très bien qu'il n'allait pas les réaliser, mais c'était parce qu'on se retrouvait dans la philosophie générale de ses promesses. Et bien on votait pour lui parce que ses promesses traduisaient en fait une vision de la société à laquelle on adhérait. Ça, je trouve ça très intéressant. C'est assez vrai. Mais on n'est pas débiles. On sait tous que les promesses de campagne ne seront pas tenues et que plus elles seront fortes, moins elles seront tenues au pied de la lettre. Mais en revanche, c'est tout à fait vrai, oui, qu'elles traduisent une direction, une dynamique politique. Et c'est pour ça, en fait, qu'on donne notre voix à quelqu'un. Parce qu'on a l'impression qu'il va dans un sens dans lequel on voudrait que le pays aille. A contrario, là, j'en reviens à la deuxième partie de ta question. A contrario, la politique spectacle, ce qu'on appelle la politique spectacle, est quelque chose que personnellement je ne supporte pas du tout. Et je trouve que je ne supporte pas, tout le monde s'en fiche, mais que je trouve plutôt nuisible pour un bon fonctionnement de la démocratie.
Depuis ce week-end, il y a une expérience intéressante qui a été initiée par le gouvernement avec le projet de loi sur le numérique. Cette expérience, c'est d'inviter les citoyens à s'exprimer sur les articles, sur un site internet. Est-ce que c'est pas trop tard vis-à-vis de toutes les lois qui ont déjà été passées sur internet ? Et est-ce qu'il n'y a pas non plus un risque de cacophonie ou de surreprésentation d'un certain type d'opinion ?
C'est beaucoup de questions à la fois. Trop tard, non. D'abord, parce que j'ai toujours considéré qu'il n'était jamais trop tard. Il est trop tard quand on arrête de faire. Mais que quelque chose arrive en retard, je préfère qu'il arrive. Donc, trop tard, non, c'est pas trop tard. Le cheminement législatif est long et complexe. Je trouve même ça plutôt bien. Axel Le Maire ait réussi à trouver une place pour le débat parlementaire sur ces questions-là. Cacophonie. Quel genre de cacophonie? Sur représentation, cacophonie, tout ça, c'est le travail de back-office. Hein,
On dit arrière-guichet maintenant.
Hein. C'est l'histoire du type, j'ai dit faire ça au début, qui ouvre son blog. Et tout d'un coup, parce qu'il a 150 commentaires à modérer, se dit « Ouh là, comment je vais faire ?» Et surtout, si les 150, c'est tous les jours, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que j'ai un problème... Ariane Michel, c'est dit, bon, d'accord, d'Ariane Michel ou de back-office. La question, c'est la gestion de tous les commentaires qui vont être reçus. Et à mon avis, c'est ça qui va déterminer le succès ou l'échec de cette expérience-là. Et je suis plutôt confiant là-dessus, parce que je trouve qu'il y en a de plus en plus. J'ai toute chose égale par ailleurs, mais je voyais Frédéric Lefebvre, qui est le député des Républicains français de l'étranger. Il a lui-même ouvert son site de sa brique de propositions ou d'amendements législatifs. Et tout le monde sait aujourd'hui, et donc je ne doute pas qu'Axel Le Maire et ses équipes le sachent évidemment, tout l'enjeu, c'est d'arriver à gérer la masse des réponses. Et gérer, ça veut dire aussi trier. Faire la part des choses, te rendre compte que quand t'as 70 commentaires qui disent sensiblement la même chose, on a compris. Et ça veut dire que c'est pas forcément 70 personnes. Ou alors, si ce sont 70 personnes, il peut se poser la question de... Je sais pas pourquoi j'ai dit 70, il peut se poser la question de savoir comment on les traite, et ainsi de suite. La vraie difficulté, elle est là. Et je trouve que c'est vraiment intéressant, justement, ce qui vient de lancer Le Maire, parce que je suis très curieux, en étant plutôt optimiste, de voir comment ils vont gérer cette difficulté-là, qui n'est pas nouvelle. À partir du moment où le Web 2.0 est apparu, la question de la modération étendue, c'est-à-dire du traitement, de l'utilisation des commentaires et des contributions, est venue immédiatement.
D'un autre côté, quand il y a une loi qui est en cours de constitution, donc on a parlé rapidement en fait justement de la manière dont la loi est réécrite pendant le processus parlementaire, c'est-à-dire qu'on dépose des amendements. Un amendement en soi est très difficilement lisible, puisque cela consiste à dire à la place de tel mot on met telle phrase, ou on supprime tel mot et on accorde le verbe à l'imparfait. Entre nous, moi, j'ai vu des commits de code source en Haskell bien plus compréhensibles. Alors, quand tu dois suivre une loi parce qu'elle t'intéresse au premier chef, quelle est ton astuce pour t'y retrouver ?
Bah, la même que la tienne, tu viens de donner ta réponse. Hein. Toi, tu as vu des commits beaucoup plus compréhensibles parce que c'est ton métier ou parce que tu connais ou parce que même si c'est pas ton métier, c'est un de tes domaines de compétences. Il n'y a pas d'astuce. C'est un métier, c'est un domaine de compétences. Donc, tu ne fais pas besoin, quand tu travailles sur des sujets comme ça, tu n'as évidemment pas besoin de retourner à l'article de loi d'origine pour réinsérer, etc. etc. La lecture de l'extrait de texte que constitue l'amendement, voire pire, le sous-amendement, ça c'est vachement un essai, ça permet de comprendre immédiatement, ou presque, quel est l'effet qu'il va avoir. C'est un métier, c'est juste un métier, c'est pas plus compliqué que autre chose.
Ça, c'est aussi ce qu'on reproche, ce que certains reprochent, je vais dire, au personnel politique, c'est-à-dire qu'ils ont transformé un mandat en métier.
Oui, mais là-dessus, personnellement, moi, je préfère avoir les personnes qui connaissent leur métier que les grands discours vertueux vides de sens.
C'est pas faux. C'est pas faux.
J'ai toujours été adepte de la spécialisation, quel que soit le sujet.
De par ton expérience des réseaux sociaux, des forums, en fait, du biotope des internautes, est-ce que les personnalités politiques viennent te demander conseil ? Je veux dire, pour autre chose que pour connaître le mot de passe Wi-Fi ou demander l'effacement d'un post sur Facebook d'un de leurs ex ?
Oui, pour savoir comment rebrancher la batterie du téléphone aussi.
Ah oui, d'accord.
Non, sérieusement, modestement, pas plus que ça. Ceux que je connais, oui, mais j'irai pas ouvrir un cabinet de conseil en espérant faire fortune avec ça. Et je crois que c'est parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent, qui commencent à connaître.
C'est pas...
De droite comme de gauche, même tu vois bien les personnalités qui sont sur Twitter. Enfin, les personnalités qui sont sur Twitter. Très actives sur Twitter, je pense. Même sans réfléchir, mais. T'as Christian Paul, t'as Isabelle Attard, t'as Franck Rester, t'as Frédéric Lefebvre, que j'ai déjà cité. Tous ces gens n'ont plus besoin de conseils. À partir du moment où ils sont dans le réseau, ils sont avec leur propre personnalité, leur propre façon de parler. Personne n'a besoin de les conseiller sur ce qui est ou n'est pas Internet, et tant mieux. Et tant mieux.
À force de se prendre des répliques cinglantes sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a quelques-uns des hommes politiques ou des femmes politiques qui disent « j'en ai marre, ils comprennent pas », qui craquent et qui en soi te font pitié ?
Qui jettent leur ordinateur par terre et le piétinent de rage. J'en sais rien, j'ai jamais connu, non. Je pense qu'ils font, enfin, ceux que j'ai connus, ils font comme nous tous à notre niveau. Quand on a une masse de trolls, tu regardes et tu passes à autre chose.
Hey, ça c'est un conseil à mon avis que je devrais passer à pas mal de personnes. Merci du type quand même.
C'est quand même pas le truc le plus compliqué du monde. Après, on sait tous qu'on se laisse on se laisse facilement embringuer dans des boucles de trolls et autres, mais on sait tous aussi que ça sert strictement à rien. Si, bah justement, j'ai bien aimé, toi, quand tu parles de trolls comme ça, des discussions sur Twitter qui ont commencé très mal et qui ont fini au moins parce que j'ai cru détecter comme par la possibilité de discuter, je crois que c'est passé comme ça avec Jérôme, je suis passé maintenant, mais je crois même que c'est passé comme ça. Et en tout cas, une forme de respect mutuel, même si après, ça n'empêche pas qu'on puisse être en désaccord, mais c'est un certain nombre de choses. Donc parfois, du troll peut naître quelque chose de plus positif. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il y a des trolls utiles et des trolls inutiles.
Et sinon, il y a les risques. Il faut aussi rappeler les risques juridiques, la diffamation et tout le reste. Il ne faut pas non plus lancer n'importe quoi. Eric, Walter, j'ai dévoilé que tu contribues à la Wikipédia, plus exactement que tu es photographe d'ailleurs.
Très amateur.
Très amateurs, mais elles sont quand même pas mal. Hein. J'ai passé un petit tour à les regarder. Comment est vue cette activité de ta part par tes pairs ?
Il faudrait que tu définisses mes pairs d'abord.
Ah, je ne sais pas, déjà les hauts fonctionnaires et éventuellement les hommes politiques.
Bon, j'ai quelques pas aux fonctionnaires qui sont aussi des Wikipédiens ou médias hein, au choix très actifs. Donc. Cela, on partage nos expériences sur Wikipédia, Wikimedia. Mais Wikimedia, donc la donnée média, c'est quand même beaucoup plus serein que Wikipédia. Je me souviens d'avoir contribué personnellement aux articles sur le mariage aux homosexuels pendant le projet de loi. Ça swingait. Donc Wikimedia, c'est calme, tu vois, donc on échange là-dessus. Non, il y a pas mal de hauts fonctionnaires, comme tu dis, ou comme on dit, qui eux-mêmes contribuent. Alors certains de façon anonyme, moins de façon non anonyme comme je l'ai fait. Ça, c'était aussi un peu lié à mes fonctions, donc je préférais le faire de façon transparente. Politique, je n'en ai jamais parlé avec qui que ce soit. Donc, là, ça, personne ne m'en a jamais parlé, et moi, j'en ai jamais parlé. Et pour terminer...
Là, tu viens d'en parler.
Non, mais c'est pas grave. Non, mais évidemment, mais c'est quelque chose qui est tout à fait ni connu ni inconnu, c'est public, donc voilà. Non, le point le plus important, c'est ma compagne qui trouve que quand on est en vacances, je passe trop de temps à aller vouloir prendre les chapelles, les châteaux et machin qui sont pas illustrés sur les fiches Wikipédia, et ça l'agace.
Elle n'est pas la seule à faire ce reproche, je te rassure. Eric Walter, merci beaucoup de t'être prêté au jeu et d'avoir bien voulu être notre invité là-dessus sur donc les relations entre les hommes politiques et Internet. On te remercie beaucoup et on t'espère pour toi des aventures tout aussi passionnantes.
Eh bien, merci et bonne suite d'émission.
Merci.
Merci.
Merci. Au revoir.
Au revoir.